si vous voulez bien reprendre place tous les trois, Martine, Eri et Jeanne Benhammer, qui va probablement lire son texte.
L'homme palimpseste. Je n'ai jamais pris beaucoup de photographies. Je préfère me fier à ce que garde l'œil et la mémoire, et tant pis pour la perte. Quand j'ai visionné les entretiens que Lina a mis à ma disposition, c'était aussi dans cet esprit. Je regarde, j'écoute. Des mots, le rythme d'une voix, un visage. Cela m'accompagne depuis maintenant des jours et des jours, comme une lecture. Cela m'a tenu parfois en éveil la nuit. Je sais, à un remuement intérieur, que le travail se fait. Dans cet espace que déjà toute petite, j'ai appris à garder vacant, farouchement inhabité. Mon désert, c'est là que l'écriture a lieu. Je regarde, j'écoute, je me laisse traverser et je comprends pourquoi c'est un livre de cet homme-là, Tu mio, que j'ai lu en italien pour la première fois. L'italien, la langue de son père, pour moi la langue de ma mère, une langue tue. Il fallait le silence de la lecture et le silence des mots de cet homme-là pour que j'ose. Je comprends qu'Eri De Luca permet le franchissement. Alors le mot confiance. Il sait bien qu'en écrivant, nous ne faisons chacun qu'ajouter notre trace au palimpseste. C'est la métaphore du blé, et je suis bien heureuse de sa façon de le dire. Tout son être légèrement penché vers son interlocuteur, comme pour mieux se faire comprendre, et l'œil amusé. Il sait qu'il est fait de mille et mille strates. Avec sa naissance et sa mort, il tient juste l'avant et l'après. Il tient juste sa place dans le temps. C'est cela qui me touche fort chez Eri De Luca. Cette conscience de la place humble de celui qui vit, qui écrit. C'est pour cela que je vais oser le tutoiement dans la lettre qui suit. Tu le prendras en bonne part, avec la juste distance que donne l'écriture. Je regarde ton visage, les rides, comme des lettres rendues à la simplicité du trait, horizontale, verticale, une géographie vivante de soleil, de vent et de temps. Et dès que ton visage s'anime, c'est la joie de l'enfant toute proche, au creux de ces sillons qu'aucune main de mère ne comblera jamais. Je te regarde et je vois tous les hommes. J'entends des chants anciens dans le souffle de ta voix. Tu as accueilli tous les autres avant toi. Et pourtant, tu es bien cet être singulier, unique, qui tient son histoire entre ses mains aujourd'hui. Et j'aime ta façon d'affirmer nettement qu'il y a en toi le bon et le mauvais, comme en chacun, toujours. Tu n'es pas un saint et ça me rassure. Je vois un homme qui prend sa part. Et l'effort ne te fait pas peur, que ce soit celui de l'escalade ou celui de l'entrée dans la langue inconnue. Tu franchis les étapes une par une et le ciel est haut. Mais le bleu du ciel souffle entre tes côtes et j'entends que c'est avec ce souffle-là que tu parles, que tu écris. Alors le mot libre. Je te regarde, je t'écoute. J'apprends la façon que tu as de t'asseoir face à celui qui te parle. Ton corps légèrement en retrait, bien calé sur la chaise, le dos appuyé au dossier, tes mains qui reposent sur les cuisses et les genoux écartés. On dirait qu'il n'y a aucune tension dans ton corps. En même temps, je sens la concentration. Tu te tiens prêt, sans rien gaspiller de ton énergie. Pas de distraction. Tout ton être attentif à la parole qui te sera adressée. Et c'est le mot « respect ». J'apprends de toi aussi que celui qui n'a que faire d'être regardé entend mieux. Tu scrutes ton interlocuteur. Pour parler d'un regard, il faut d'abord parler du front. Le tien a pris le vent de face, comme tu dis. C'est un front rude et ouvert. Les lignes se croisent nettes au-dessus des yeux, une croisée qui tient en éveil le regard. Le cœur n'a pas de paupières. Tu ne regardes jamais ailleurs quand tu es face à quelqu'un. Je vois dans tes yeux à la fois la bienveillance et quelque chose qui ne pardonne pas. C'est cette rigueur et cet amour à la fois que j'ai découvert dans ton écriture. Jamais un mot pour rien, c'est pour cela que je te lis. J'attendais tes mains pour me laisser emporter par leur mouvement, ou pas. On dirait qu'elles ont appris à se tenir tranquilles, ou peut-être l'ont-elles toujours su. Quand tu accompagnes les mots d'un geste, c'est souvent une seule main qui croise l'air, l'autre reste au repos. Lorsque Frédéric Fernet te demande de les montrer, tu le fais. Ce sont des mains qui ne cherchent pas à retenir, voilà ce que je me dis. Des doigts qui laissent passer l'air depuis longtemps. Je me demande ce que tu éprouves à ce moment précis où tu montres tes mains, comme on retourne ses poches vides, l'air de dire « il n'y a rien à voir ». Et paradoxalement, de ces entretiens filmés, c'est ce que je retiens. Il n'y a rien à voir. Tu n'es pas un spectacle. Tu donnes à voir, c'est différent. Et j'aime cette différence. Tu déclenches, comme dans tes écrits, la vision intérieure de celui qui regarde, qui écoute. Je ne me sens pas spectatrice de toi. Je te regarde, je t'écoute et je réfléchis. C'est au silence que tu m'invites. Tu me renvoies à mes rêves et à mes pensées avec le cadeau d'une conscience plus aiguë. Cela fait des jours qu'en te regardant, en t'écoutant, je me sens encore mieux chez moi. Aussi bien quand tu reprends en murmurant « aucune toi » après Philippe le fait, que lorsque tu affirmes le droit à l'insurrection de chaque peuple. Alors je te remercie d'être dans cette présence vive à la vie même. Dans ce monde parfois si peu humain, tu donnes envie d'aller au fond de soi chercher la bonne part qui rend l'humanité partageable. Peut-être le souffle d'un « nous » plus large que quelque groupe que ce soit, un « nous » qui nous relie à ceux qui ne sont plus et à ceux qui viendront. Merci.
Voilà, respire, respire, voilà, voilà. Eri, ça va être dur pour toi de dire quelque chose, si c'est pas une déclaration d'amour, ça, je sais pas ce que c'est.
C'est une déposition sur l'autel, de laquelle je descends tout de suite.
Oui. Tu ne veux pas être sacralisée. Mais merci Jeanne. Merci d'avoir choisi ces images qui, moi, m'ont fait beaucoup sourire. Enfin, l'intensité du regard de Eri quand il répond aux questions des journalistes, j'adore. Et merci d'avoir écrit ce texte dans lequel, moi, je me retrouve totalement en tant que lectrice aussi d'Eri et d'une façon générale de la littérature qui nous anime et qui nous fait un peu tenir debout. J'ai pensé à certains mots que l'on retrouve dans les paroles de Eri, dans ce que tu as écrit. Et bon, c'est des mots qui ont l'air de rien, quoi. Enfin, je tourne le dos, excusez-moi, c'est parce que je veux les avoir à l'œil. Des mots qui n'ont l'air de rien, mais qui chez vous, dans vos livres, prennent vraiment une place pas seulement particulière, mais vraiment intense. On sait que chez vous, Il y a l'exil, la langue ou les langues, le travail, le corps, le temps, les racines, la loyauté, la poésie, le doute, l'aujourd'hui, l'hier, l'histoire, le silence ou les silences, l'autre, les autres, la foi, le compagnon, la colère, la liberté, la révolte, le sacré, le profane, des arbres, il y a l'oubli, il y a la force, et il y a le vif de la vie, qui est une de tes phrases aussi, Jeanne. Alors, voilà, moi, ça me plaît de faire ce travail, parce que j'essaie de rassembler des livres qui ont été importants pour moi et aussi de vouloir les faire partager. Et est-ce que vous, quand je dis tous ces mots-là, vous, il y en a qui vous parlent particulièrement, sur lesquels vous auriez envie de rebondir ou pas ? Jeanne, tu te sens de parler un peu là maintenant ?
Je ne sais pas, j'écoute là en même temps ce que tu dis. Et,
par exemple, sur les langues peut-être. Tu as été aussi habité par plusieurs langues, oui. Et ri aussi par le napolitain, l'italien, l'hébreu, le yiddish, l'allemand. Voilà. Toi aussi, tu as été habité par différentes langues.
Oui, moi, mon père est arabe, donc sa langue maternelle, c'était l'arabe. Ma mère est italienne, donc sa langue maternelle, évidemment, c'est l'italien. Mais l'italien a été banni de la maison, c'est comme ça. Et mon père voulait qu'on parle français. C'était l'époque, les années 60, donc l'intégration à mort, vraiment. Et donc, c'est le français qui était parlé à la maison, et c'est donc en français que j'écris. Et l'italien, ça a été la langue de l'amour, la langue de ma mère d'avant. Une langue que je ne parle pas. Voilà. Mais que je lis. Alors, ce que je disais, il faut le silence. Et c'est vrai que c'est Toumio que j'ai lu en premier. Je me suis dit, je n'ai pas besoin de traduction, je peux lire, en fait. Voilà. C'est des drôles d'histoires, les histoires avec les langues.
Eri, sur la langue, sur les langues. Ce que tu apprends de Jeanne, par exemple, de son expérience.
Les langues sont des comme planter un arbre. Si on décide d'apprendre une langue, on commence à voir si la racine prend dans le terrain. Il faut l'arroser, souvent. Je dis que pour apprendre une langue, il faut faire un passage dans la langue tous les jours. Même en minute seulement, hein, de peu de temps, mais tous les jours, il faut arroser cette nouvelle plante. Et on s'aperçoit jour par jour qu'on se trouve mieux, on commence à partager un peu d'intimité avec cette plante. Et je suis quelqu'un qui plante les arbres. Je suis un planteur d'arbres. D'abord parce qu'il me plaît. Après, j'ai compris que je le plantais pour rembourser la nature. Parce que chaque livre de ça a la prémisse d'une scie à moteur. Et alors, quelqu'un qui écrit doit aussi avoir la responsabilité ou le sentiment de rembourser avec les feuilles, avec les arbres. Et donc, je plante les arbres. Et je sais comme ça marche avec les arbres. Les arbres sont plutôt indépendants. Ce sont des créatures indépendantes. Parce qu'il y a des arbres qui ne veulent pas être plantés là. Alors, j'essaie de savoir si l'arbre veut être planté là. Je marche sur mon champ avec l'arbre, le petit arbre dans la main. Et je le dépose et sur le terrain et j'essaie de sentir s'il est d'accord. Et parfois, je me trompe. J'ai planté un amandier dans un endroit qu'il ne voulait pas. Alors, il me l'a fait comprendre qu'il ne voulait pas. Alors, je l'ai arraché de là et je l'ai mis dans un autre endroit, un an après. Et il était tout content de ça. Il est parti avec enthousiasme dans le nouveau endroit. Et c'est comme ça qu'il se passe aussi avec les langues. Mais avec les arbres, il n'y a plus de satisfaction. Parce qu'à la fin, je pense que... ce que j'ai fait dans ma vie est de produire des ombres, l'ombre des arbres, voir les ombres des arbres qui augmentent sur la surface tant qu'ils montent en hauteur et devient plus grand. Et les langues aussi. Peuvent rassembler, ils enlargissent leur ombre dans ma tête. Il donne plus d'espace dans ma tête. Mais pour moi, j'apprends les langues pour les lire, pas pour les dire. Ça, c'est ma, je préfère. Je lis en russe, mais je ne parle pas le russe. Je préfère lire et chercher. Mon mobile est d'aller chercher le poète dans sa tanière, dans son lieu secret qui est sa langue. Aller le, faire une visite à domicile. Visiter dans son domicile. Et, donc, je parle de langue, mais de langue fermée dans la bouche.
Puisque Eri parle de poésie, Jeanne, tu pourrais peut-être nous expliquer justement quelle est ta relation à la poésie, parce que tu as écrit de la poésie aussi, et quelle est la force que tu trouves à écrire de la poésie, à en lire. Enfin, voilà, Eri trouve aussi la... ou une force, un émerveillement, enfin, ce que l'on veut mettre là-dessus, dans la lecture des poètes.
Quand je lis des textes poétiques ou quand j'en écris, ce que je cherche, parce qu'en fait, moi, je cherche. Quand je lis ou quand j'écris, je cherche. Il y a une sorte de quête, il y a quelque chose comme ça. Je sais que c'est vertical, voilà ce que je peux en dire. C'est vertical. Ça veut dire que ça va être quelque chose qui arrive, qui advient avec un mot comme ça, et c'est une espèce d'illumination, on peut dire ça, de lumière, tout d'un coup qui éclaire. C'est vertical et c'est immédiat. Alors que dans le texte narratif, c'est horizontal, c'est plus humble ce qui se passe, c'est mot à mot. Moi, j'ai mis longtemps avant de me laisser aller à cette chose horizontale qu'on peut appeler le roman, par exemple. Et ça n'empêche pas que ça soit traversé quelquefois par le vertical, et c'est... Ce que je vois dans le narratif, c'est plus une élucidation, quelque chose comme ça, d'une lumière qui arrive, mais petit à petit, alors que dans le poème, c'est une illumination, c'est comme une épiphanie. C'est... Voilà, je peux dire que vertical et horizontal, c'est ce qui me vient, hein, en fait. Voilà.
Peut-être qu'on pourrait demander à Eri, lorsque tu lis de la poésie, est-ce que tu as l'impression aussi que, comme Jeanne, c'est une ascension ? Est-ce que c'est comme monter l'Himalaya ?
Non.
Chercher une lumière ?
Non. Non, non, pour moi, la différence entre prose et poésie, c'est une différence d'allure. Alors, dans la prose, je suis quelqu'un qui, comme lecteur et aussi comme écrivain, quelqu'un qui marche à pied. Je mets mes pieds sur la terre. Trace que je veux, je calque bien mes syllabes et mes accents là où je regarde sur le terrain. Et quand je lis ou j'ose faire de la poésie, c'est comme monter à cheval. Donc, c'est pas moi qui décide où mettre les pieds et l'accent et le poids sur le terrain. Et le cheval marche. Je peux donner une direction, même quand je lis un poème. Je suis la direction d'un poème, mais je sens que je suis dans une courante qui va plus vite et plus urgente. Alors, si je monte à cheval, si je fais la poésie, j'essaie la poésie, je sais que la poésie m'échappe. Donc, je suis entraîné dans une fuite du cheval. Il y a une histoire qui dit quelqu'un qui monte à cheval et qui parcourt un champ et le paysan qui le voit dit « Mais où vas-tu? Où tu cours? Où vas-tu en courant ?»« Je ne sais pas, demande au cheval. » C'est comme ça pour moi la poésie. C'est un animal sur lequel je peux monter, mais qui ne décide pas. Qui décide, c'est pas moi qui décide. le rythme, l'allure, vaguement la destination. Tout à coup, je décide de descendre. Mais je ne sais pas si j'ai arrêté le cheval ou si je suis tombé du cheval.
Jeanne, tu te reconnais dans ce qu'exprime Eri ?
Dans le fait qu'on ne décide pas. Dans le fait qu'on ne décide pas. Oui. Ça m'amuse bien parce que moi, j'ai peur des chevaux. Donc, je les regarde, mais je ne monte pas dessus. Mais il y a de ça, oui. Dans le fait qu'on... Dans la prose, oui, on peut dire qu'on choisit, entre guillemets, si tant est qu'on choisisse, quoi. Mais voilà. Dans le texte poétique, quand on essaie, quand on fait une tentative, il y a quelque chose avec le mot qui fait partir.
Mais est-ce que dans... Lorsque vous êtes dans tous les deux, hein, dans le récit ou dans la fiction, est-ce bien vous qui choisissez l'histoire ou est-ce que c'est l'histoire qui vous tombe dessus ? Ouais, à moi.
Ouais, dès que j'écris des histoires du passé, il faut d'abord que le souvenir. Je ne suis pas le patron de ma mémoire. Je ne peux pas la consulter. Comme un album de photos. Ça arrive que la mémoire, parfois, me donne un bout, une petite suggestion. Et comme ça, à partir de ce détail, j'ai envie de faire durer ce souvenir. Et la seule manière la plus efficace que je connais, c'est de l'écrire. Comme ça, je peux rester plus longtemps avec ce souvenir et avec les lieux tels qu'ils étaient, ces lieux, avec les personnes telles qu'elles étaient, parce qu'elles sont toutes là, les personnes dans le passé. Personne, aucune d'elles manque. Dans le passé, comme dit Brodsky, ce que tu aimes ne meurt pas. Et comme ça, le premier clic est là. Un souvenir.
Est-ce qu'on pourrait dire que les histoires que vous écrivez ou celles que vous lisez d'autres auteurs, elles sont en quelque sorte c'est notre héritage ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Ou en termes de transmission ?
Quand je lis Babel, le récit d'Odessa d'Isaac Babel, je trouve du partenariat méditerranéen. Il y a un peu de Naples là-dedans. Je me trouve dans les ruelles d'Odessa et avec les bandits d'Odessa comme je me trouve à Naples. Donc je me trouve proche. C'est une condition de proximité, de fraternité, de sympathie. Mais dans ce moment-là, est contemporain à moi. Quand je le lis, je suis là. Je suis contemporain de ce temps-là. Donc, c'est plus une question d'héritage. Je n'ai pas hérité Babel. Je vole ses souvenirs et je le prends pour moi.
Mm-hmm, tu le prends. C'est du vol. Mm-mm. De passage, alors, même pas.
Je ne sens pas, moi, l'histoire de l'héritage.
C'est pas grave, hein ?
Non, mais je veux dire, même enfin, dans la vie, ce n'est pas quelque chose qui me... C'est des passages, oui. On passe, on prend, on ne va pas redire Montaigne, mais on fait son miel avec voilà, toutes ces choses-là. Et moi, j'appelle ça le palimpseste. Et on prend, on donne. Voilà.
Inscrit sur ces parchemins, justement.
Oui.
Des morceaux de vie.
Ce qu'on peut.
Est-ce que, justement, votre relation à l'écriture, je repensais aux images aussi d'Éric que tu as choisies, Jeanne. Est-ce que écrire, ça serait aussi peut-être réparer une honte, parfois?
Pour réparer une honte, il faut se battre, mettre le corps en jeu. Pour réparer le passé, comme dans mon cas avec le yiddish, oui, je peux apprendre une langue. Mais c'est un exercice d'apaisement de moi-même.
Il m'est arrivé d'écrire un texte avec le profond désir de réparer une honte qui n'était pas la mienne, mais qui était une honte qui m'importait et qui, quelque part, était entrée en moi aussi quand quelque chose vous importe. Et il y avait comme ça cette espèce de nécessité. Et après, quand je me suis mis à écrire, j'ai oublié ce désir-là qu'il y avait eu, et j'ai écrit, et c'était le travail de l'écriture. Et voilà, au bout du compte, ça fait un texte. Est-ce que ça a réparé la honte? Ce serait beaucoup dire. Mais ça a permis de dire des choses. Voilà.
Et lorsque, par exemple, tu écris ce texte qui s'appelle Les Insurrections singulières, est-ce que tu as ta démarche était aussi d'être témoin de ton temps? C'est un peu idiot de dire ça parce que de quelque sorte c'est assez évident, mais de choses qui toi te turlupinaient, te touchaient particulièrement.
Quand j'ai écrit Les Insurrections singulières, c'était d'abord, j'ai rencontré les ouvriers de chez ArcelorMittal pendant un an. On a été ensemble, on se voyait dans des cafés, et les ouvriers aussi de chez Godin. Et je ne savais pas du tout, au moment où je les rencontrais et où on se parlait, qu'il y aurait une écriture. C'est à la fin, quand il y a eu la dernière rencontre, et qu'il y en a un qui m'a dit... Et alors maintenant, où on va parler? C'est une question qui m'a fait de l'effet, moi, quand je l'ai entendue. Et j'ai dit, je ne sais pas, parce que la parole, elle appartient à ceux qui ont envie de l'émettre. Et s'ils avaient envie de parler, ils allaient pouvoir parler entre eux aussi, sans moi. Je ne suis pas indispensable à ça. Mais ce qui est venu... Et ma parole, elle a précédé même la conscience que j'avais de cette nécessité qui s'était mise en route petit à petit. J'ai dit, mais moi, j'écrirai. Je sais que j'écrirai quelque chose. Mais j'ai mis 5 ans avant d'écrire, parce qu'il faut du temps, parce que j'ai laissé reposer, parce que moi, je ne suis pas un journaliste. Donc, je n'écris pas comme ça sur le... Comment dire? Ce n'est pas un document que j'écris, j'en suis incapable. Donc il a fallu 5 ans, il a fallu que du temps passe, il a fallu que, je sais pas, je vive des choses et tout ça, pour que, un moment, cet homme-là, Antoine, que j'ai écrit dans Les Insurrections singulières, fasse route dans mon écriture. Voilà. Et c'est quelqu'un qui n'existait pas. Les ouvriers que j'ai rencontrés, avec qui j'ai été dans ces paroles, c'était des gens qui avaient 50 ans et plus, alors que le personnage, il est jeune. Hein. Et voilà. Et en fait, ce que j'ai écrit, c'est une question que je leur avais posée, puisqu'il y avait cette délocalisation au Brésil. Je leur avais demandé s'ils avaient rencontré les ouvriers du Brésil, parce que dans ma tête, un peu naïve, c'était un truc international, quoi. Je me disais, si eux, ils font grève ici et les ouvriers au Brésil aussi, Mittal, il sera bien obligé de lâcher du lest. Et ils m'ont répondu non, mais comme si j'avais posé une question vraiment qui était à côté de la plaque. Et je me suis rendu compte que oui, j'étais à côté de la plaque, parce que moi, j'étais dans un confort de vie. Pas eux, eux, ils étaient le nez collé contre le fait que le travail s'arrêtait et qu'ils avaient 50 ans et qu'ils n'en retrouveraient pas. Et c'était juste ça qui était devant eux. Et en fait, j'ai mené cette question dans le roman. C'est-à-dire que le personnage, il y va au Brésil pour voir les autres. Et que c'est cette aventure-là. Voilà.
Alors, toi, justement, qui as ce regard sur l'aujourd'hui et le chaos social, quelle intimité tu as eue avec les textes d'Héry, notamment ces récits où il parle du travail qu'il effectue, voilà, ouvrier, qui parle aussi de certaines insurrections, on va dire. Quelle a été ta propre intimité avec ces textes, avec ces récits? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aussi permis de, peut-être d'écrire? Je ne sais pas.
Moi, j'ai longtemps eu la réputation d'être excessivement maladroite, de rien savoir faire de mes 10 doigts. J'ai entendu ça tout le temps. Maintenant, non. Maintenant, je m'occupe de mon jardin, je fais des tas de choses, je bricole et j'aime bien découvrir comment ça marche, les choses. Mais j'ai mis très longtemps avant de faire confiance à mes mains. Alors, quand je lis l'histoire de quelqu'un qui fait avec ses mains, ça me rassure. Et peut-être ça me relie aussi à une partie de ma famille du côté de ma mère. Mon grand-père était mineur dans le Nord. Il a fait partie de cette émigration italienne qui s'est retrouvée dans le Nord de la France. Et donc, c'était des gens qui descendaient à la mine. C'est une conscience ouvrière. Quand je parle avec ma mère aujourd'hui, elle est très âgée, elle a 98 ans, mais elle se rappelle encore très, très bien ça quand elle était petite et que les mineurs descendaient. Et on parle de ça. C'est son monde, le monde ouvrier. Et donc, ça me relie aussi à quelque chose. Parce que moi, finalement, j'ai été classée comme intellectuelle par mes parents très vite. Et c'est une conquête pour moi de remettre le corps à sa place. Voilà. Donc, j'aime lire des textes qui bien plantés, quoi. Comme j'aime regarder les arbres que peint Alexandre Olane. Voilà, ça me fait le même effet, la peinture là, de cet homme qui est resté des années entières devant le même arbre, me fait le même effet que des textes d'Héry de Luca.
Je vous passerai la parole maintenant. Ah bon, je vois qu'on... Si, comment?
J'étais prête au cas où tu...
Ah d'accord. Voilà, si vous voulez intervenir. Donc, je vous rappelle la présence de Danielle Valin, la traductrice d'Héry de Luca. Elle a horreur de parler en public. Mais si vous avez une question à lui poser, il ne faut pas hésiter. Voilà, il y a un micro qui peut se balader.
Je voudrais... Y a-t-il une main qui s'est levée? Non. Comment faites-vous, Héry et Jeanne, pour vous échapper? Pour vous échapper. Je pense à ce que toi, tu mets en place dans ton dernier livre, dans le récit du père et de sa fille. Tu as souvent des chutes de paragraphes qui... c'était une digression. Et donc, on échappe au récit. Vous qui êtes des êtres libres, comment faites-vous pour vous échapper dans le projet d'écriture? Comment on fait pour rester libre quand on écrit et quand on est pris par un récit? On crée des choses pour faire attention?
Non, c'est exactement l'acte de liberté le meilleur, le plus sympa que j'ai, l'acte d'écrire. Donc j'échappe tout le temps hors de l'écriture, mais dans l'écriture je n'ai pas besoin d'échapper, je suis dans ma cuisine, donc je n'échappe pas, je cuisine.
C'est, C'est le seul endroit dont j'ai pas envie de m'échapper. Tout le reste, oui.
Auriez-vous une question ? Meilleure que la mienne, hein, qui n'était. Mais enfin, j'avais une intention derrière et je ne sais pas poser les questions, en fait. J'ai pas réussi. Non ?
J'en ai une, moi. Que j'ai pas posé, parce que j'en ai plein d'autres. Mais, Eri, tu as écrit Je ne crois pas aux écrivains, mais à leurs histoires. Ça, c'est une phrase qui, moi, m'a beaucoup interrogé et fait réfléchir. Et je me suis dit, ben, tu as raison. Alors, moi, je crois beaucoup aux histoires. Et en même temps, j'adore rencontrer les écrivains. J'adore lorsqu'on est en public et tout ça. J'aimerais savoir comment, toi, tu vis cette relation-là aussi. Tu dis que tu crois à leurs histoires, pas forcément à l'écrivain. Et en même temps, tu te prêtes au jeu médiatique. Tout à l'heure, je regardais encore les images. La télé, c'est quand même c'est une expérience particulière. C'est autre chose que là, parce que là, on est entre nous quand même. Et comment tu vis ça, justement, tranquillement ?
Je réponds à ta question maintenant, comme je réponds à la question de Frédéric Fernet. Donc, on est assis à une table et et je reçois le privilège de recevoir des questions qui me regardent. Donc c'est le maximum du vantage pour moi. Non non, je m'amuse souvent à répondre différemment aux mêmes questions. Parce que les questions sont belles pour ça, sont des suggestions. Permettre des suggestions d'idées et de possibilités de réponse. Je n'ai pas un formulaire de réponse. Mais que tu m'as demandé ?
J'allais dire des méchantes choses sur les.
Sur l'écrivain. Non, je n'aime pas les écrivains. Donc, mais j'aime les histoires, mais je n'ai pas besoin de connaître l'écrivain. J'avais une curiosité d'aller voir comme Bohumil Rabal buvait sa bière dans ce bistrot de Prague. Ça, c'est ma curiosité, mais je ne voulais pas m'approcher. Je serais jamais approché à sa table. Mais voir comme il portait à la bouche, amenait à la bouche la bière. C'est une curiosité physique, comme ça. Mais j'ai laissé comme ça. Je ne suis pas allé à Prague pour voir Rabal boire sa bière. Mais c'était une curiosité. Par contre, non. J'aime les livres, mais pas ceux qui l'écrivent. Donc, tout te trouve bien avec les écrivains. Moi, non, je ne pourrais jamais faire ton métier. Je ne suis pas curieux des écrivains. Je suis curieux de leur histoire.
De leurs histoires. Oui, mais, mais moi aussi, quand même. Enfin, si, c'est vrai, je l'ai dit au début. Je t'ai souvent entendu dire aussi que tu préférais le vin à la littérature. Alors, est-ce juste pour faire une blague, un petit peu...
Ça dépend des horaires. Le soir, je préfère le vin, si. Le matin, la littérature.
Une autre question très personnelle. Non. Bon. Ah oui.
Merci. Martine Laval, dans la longue liste du vocabulaire que vous avez cité tout à l'heure, il m'a semblé que vous aviez fait un oubli. Non, mais c'était pas pour vous coller. C'est que ça me paraît essentiel. Et que c'est le mot souffle qui, à mon avis, relie ces deux écrivains. Et j'aurais aimé qu'ils nous parlent du souffle.
Moi, c'est ce que j'ai entendu quand j'ai visionné ces entretiens. Je suis sensible dans la voix au souffle. C'est très physique. Hein, mais dans l'écriture... C'est la même chose. C'est le souffle, c'est le vif de la vie, quoi. Et donc, c'est ça que j'essaie de ne pas perdre. Mais voilà, que j'essaie de ne pas perdre. C'est ce que je peux en dire.
Il y a un passage de, d'un psaume de David qui a été repris par son neveu qui s'appelait Jésus. Et au moment de mourir sur la croix, il répète, il redit un vers de son aïeul de David qui dit « Dans ta main, je suis en train de confier mon vent, Ruhi. Mais les traductions disent mon âme, mon esprit, mais il dit vent comme David. Parce que le sentiment est que même le souffle, son propre respiration, ne dépend pas de nous, mais d'un vent qui vient de l'extérieur et qui anime les poumons. Et c'est le vent, exactement le premier vent qui entre dans les poumons serrés, scellés du bébé qui sort de sa mère. Et alors il y a ce vent qui entre et qui fait commencer l'aller-retour de la respiration. Et alors, c'est exactement ça qu'ils disent, les deux. Dans ta main, je suis en train de confier ce vent que tu m'as donné. Donc, c'est pour moi, le souffle et le sentiment, je l'ai appris à travers ça, à travers cette lecture, je ne le savais pas avant, mais c'est le sentiment que même pas ma respiration, ce n'est pas la mienne. C'est un cadeau de l'air, du vent, et de cette force qui voyage à la surface des eaux et du monde et qui n'a pas besoin de rencontrer exactement moi. Est indépendant de moi. Mais dès que trouve ma poitrine, elle a fait la générosité d'aller faire cet aller-retour.
Et j'écoutais ce que disait Eri. C'est l'extrait aussi, un moment, si vous vous rappelez, hein, quand il dit voilà, que ça passe. Et peut-être, moi, quand j'écris, je me rends compte que c'est une façon de faire que ça circule, ce souffle. Voilà. Que ça ne s'arrête pas. Il y a de ça dans le mouvement de l'écriture.
Bonsoir. À propos de souffle, je viens de terminer votre dernier livre, Le tort du soldat. Et au moment où ce mot qui va te faire tout basculer dans l'histoire est prononcé et mettre le mot qui est sur le front du golem, il est murmuré, il n'est pas dit très fort, il est murmuré presque inconsciemment par le narrateur et il va tout déclencher. Et à ce moment-là, j'ai revu aussi dans Le poids du papillon quelque chose d'infime à la fin de l'histoire qui fait tout basculer. Il y a dans votre écriture, par moments, comme un lien entre le ténu, le tout petit, l'invisible, et puis quelque chose qui va déchaîner une force incroyable.
Je ne résiste pas à l'envie de raconter juste une petite histoire qui m'est arrivée un jour où j'étais en pleine nature et assez sérieusement à bout de souffle et dans tous les sens du mot. Et je suis tombée nez à nez avec un cheval. C'était peut-être le cheval de la poésie. Et ce cheval s'est mis à souffler avec ses naseaux. Mais on était vraiment comme nez à nez. Et j'ai respiré ce souffle qui venait du cheval et comme un cadeau à la fois très spécial et très naturel. Et j'ai remercié et ça a redémarré. Voilà, je crois que le souffle, ça vient vraiment aussi du dehors.
Kiki, on s'en va, on s'en va.
Merci.
Le petit mot de la fin pour voilà. Sylvie. Moi, je vous remercie.
Ce fut épique, si je puis dire. Et merci beaucoup à tous les trois. Je crois que c'est
Bon, merci beaucoup. Et le mois prochain, tout ira pareil que ça. Et ce sera Esther Tellerman qui parlera de Max Jacob avec nos amis d'Europe, Jean-Baptiste Parra. Voilà, merci. Et samedi, on est ici autour de Jean-Jacques Sempé avec Jacques Reda, Mathieu Lindon. Et puis, il y aura aussi Benoît Duteurtre avec lequel on a organisé ça et Joël Egloff. Voilà.